RFI, grand reportage, Charlotte Hydrac.
Bonjour, rediffusion de grand reportage qui nous emmène aujourd'hui en Tunisie, le pays frappé par le terrorisme en 2015. Il y a eu l'attaque du Bardo, puis celle de Sousse ou du bus de la garde présidentielle en plein cœur de la capitale. Des attaques qui ont fait plus d'une soixantaine de morts sur la seule année 2015. Attentats traumatisants pour les survivants et qui ont aussi pointé les défaillances en matière d'assistance psychologique aux victimes du terrorisme. Depuis, le pays a planché sur un programme de santé mentale en situation exceptionnelle. Tunisie, après le terrorisme, pensez les plaies invisibles. Grand reportage, signé Jihan Bergaoui.
Aïe, aïe, aïe. La fameuse salle. Ouais. Oui, ma chair de poule, là. Ouais, c'est...
Les larmes aux yeux, je vous sens ému.
Ouais.
Ça n'est jamais anodin de revenir sur les lieux du drame. Pour Abdelrahman, cette salle est désormais chargée d'émotions. Il y a 2 ans tout juste, aux environs de 12h10, ce guide est en train de s'émerveiller devant la mosaïque du Triomphe de Neptune, l'un des trésors du musée du Bardo. Autour de lui, une trentaine de touristes et puis d'un coup, les premiers coups de feu.
Mars 2015, Tunis, opération antiterroriste au musée du Bardo.
Moi j'étais là, le groupe ici, j'ai ordonné de s'asseoir, d'éteindre leur téléphone ou bien de le mettre silencieux. Je voulais localiser un petit peu le son. Vous savez, les coups de feu à l'intérieur d'un musée, là ça fait un son que jusqu'à maintenant je l'écoute pas mal de fois dans mes oreilles.
Abdelrahman et son groupe sont restés cachés plus d'une heure dans cette petite salle avant d'être évacués par la brigade antiterroriste. Les deux assaillants, eux, sont abattus après avoir tué 22 personnes. En Tunisie, c'est l'onde de choc. Surprise, les autorités tentent de gérer la crise. Tous les hôpitaux de la capitale sont mobilisés.
19 mars 2015, Tunis, hôpital de la Rabta.
Il y a eu un afflux de blessés, donc c'était un peu... du grand n'importe quoi, parce qu'on n'avait pas vraiment des directives claires. Donc il fallait gérer ça sur le tas. C'est pas évident.
Il y a une cellule de crise qui était formée par les psychiatres et les psychologues qui étaient là donc depuis hier soir et encore aujourd'hui et qui seront là tout au long de... Voilà.
Les autorités improvisent alors une cellule de soutien spécialisée dans le psychotrauma. La psychiatre Anissa Boisker est appelée en renfort.
Évidemment, personne ne savait que ça existait, cette aide-là. Et donc on a communiqué dans les médias. On dit voilà, il s'est passé quelque chose d'effroyable et qu'on n'était pas préparé et que si vous avez ces symptômes-là, c'est normal, mais si vous voulez en parler, vous venez. On a eu des gens qui travaillaient dans le musée qui sont venus, mais c'était pas assez, on savait qu'il y avait plus.
L'information ne circule pas jusqu'à tout le monde. Abdelrahman, par exemple, n'a jamais su qu'il pouvait consulter gratuitement. 2 ans après l'attaque, il n'a toujours pas bénéficié du moindre soutien psychologique.
L'autre jour, je regardais les dessins animés avec les enfants. Il y a des coups de feu. J'ai peur, peut-être. Je crois que le sentiment de peur que j'ai caché là, je ne dois pas paraître devant le groupe comme j'avais peur. Parce que sinon, là, la panique. Et s'il y a la panique, ces gens vont découvrir où on était, ils viendront nous chercher, ils vont nous tuer. C'est ça, ce que j'ai pensé. Le fait de se faire fort, d'essayer de garder mon calme, je suis en train de le payer maintenant. Non, mais je suis sûr. Je dois aller voir un psychiatre, ça c'est sûr, pour m'aider. Parce qu'il faut. Mais bon.
Il a dans son cerveau émotionnel toutes ces images, toutes ces pensées.
Le psychiatre Gérard Lopez, l'un des fondateurs de l'accueil et du soutien médico-psychologique des victimes en France.
Et alors évidemment, quand il retourne au Bardo ou qu'il entend des tirs, même dans un dessin animé, et ben ça appuie sur le bouton du magnétoscope et il revit le Bardo.
26 juin 2015, Sousse, salle de restaurant de l'hôtel impérial Marabat.
C'est une cellule d'écoute et de prise en charge des gens qui sont traumatisés.
Il y a eu une explosion et on ne sait pas, on s'est dispersé et elle a été blessée un peu partout. Les images, ça revient, toutes les images reviennent.
On est en train de leur offrir le soutien psychologique nécessaire pour qu'ils puissent se rétablir et retrouver leur calme.
Trois mois plus tard, nouvel attentat en Tunisie. Cette fois encore, les touristes sont ciblés. C'est l'attaque de l'hôtel Impérial Marabat de Port El Kantaoui, près de Sousse. Bilan, 38 morts et des dizaines de blessés. Sur place, médecins et psychiatres de la région assurent l'intervention immédiate. La crise, elle, est gérée depuis Tunis au sein du ministère de la Santé. C'est la Shock Room qui pilote l'opération. À sa tête, le docteur Naoufel Somrani.
Au Bardo ou bien à Sousse, on a déclenché dès les premières minutes, des psychiatres et des psychologues volontaires qui sont allés même au niveau du lieu du sinistre. Mais c'était de façon improvisée et on voudrait que le déclenchement soit automatique et systématique, non pas chercher des gens qui soient disponibles en ce moment-là. C'est pour ça qu'il faudrait mieux organiser les choses pour qu'on puisse agir mieux et pour prendre les personnes mieux en charge. Mais c'est vrai qu'on n'a pas pu toucher tout le monde parce que ça nous manque cette culture de prise en charge du psychotrauma en Tunisie.
Le Bardo, Sousse, mais aussi l'attaque du bus de la garde présidentielle en novembre 2015 en plein centre-ville de la capitale pointe des défaillances dans la prise en charge et dans le suivi du soutien psychologique des survivants.
Voilà, c'est ça, le jeu comme ça, c'est la salle où on se réunit lorsqu'il y a une crise. C'est Ayman qui est aujourd'hui qui est de garde, donc il peut recevoir des alertes soit par email, soit par téléphone, soit par un numéro vert ici, ou bien on a d'autres numéros. On a là-bas une ligne directe avec la salle d'opération du ministère de l'Intérieur.
C'est 24 heures sur 24 ?
C'est 24 heures sur 24.
Il y a toujours quelqu'un ici pour répondre au téléphone au cas où.
Absolument. Et s'il y a une crise, l'équipe pourra être renforcée.
Face au risque d'attentat, le Shock Room réfléchit donc à de nouveaux protocoles d'intervention et met en place une CAP, une cellule d'assistance psychologique qui doit être déclenchée lors de situations exceptionnelles. La CAP est officiellement créée dans les faits en décembre dernier, mais il manque encore un décret pour l'organiser. La cellule de Tunis devrait chapeauter le dispositif avec des relais locaux à Sousse et à Sfax. L'idée, c'est donc de créer un réseau de confrères sur l'ensemble du territoire pour pouvoir intervenir rapidement et n'importe où, explique Anissa Boasker, la psychiatre très référente nationale de la cellule.
Quand on va faire le groupe de Sfax, on va insister pour faire participer des psychologues et des psychiatres du Sud pour pas qu'on se retrouve démunis ou en manque de personnel pour intervenir si jamais il y a une catastrophe dans le sud tunisien.
Mais ce maillage encore incertain en région a notamment fait défaut en mars 2016 dans la ville de Ben Garden à la frontière libyenne. Malgré l'attaque simultanée mais repoussée d'une soixantaine d'assaillants appartenant à l'organisation État islamique, les autorités n'ont pas déclenché de cellules psychologiques.
Est-ce que c'est un regret de ne pas avoir déclenché à ce moment-là ?
Normalement, oui, on aurait dû le faire, mais on n'a pas tout le temps la possibilité.
Moi, je suis restée 3 jours là-bas, les gens me disaient « Bon, bah, il y a eu Sousse et le Bardo, ils ont envoyé des cellules, nous, on est loin de la capitale, ils nous calculent pas trop, en fait. » Un petit sentiment de « on est loin, ils s'occupent pas trop de nous. »
Oui, ils ont peut-être raison quelque part, mais on fait ce qu'on peut.
Que dans notre projet, on va faire 3 cellules. Une à Tunis, une à Sousse et une à Sfax, parce qu'on ne peut pas tout faire d'ici à Tunis.
En parallèle de la cellule d'assistance psychologique, Anissa Boasker a également mis en place un diplôme en victimologie. 25 étudiants sortiront diplômés en juin 2018. Loin de Tunis, à la frontière algérienne. Nous sommes maintenant dans le petit village de Boualaba, au pied du mont Chahambi, dans la région de Kasserine. Ici, le mont est inaccessible aux jeux d'enfants, déclaré zone militaire fermée par les autorités. La nuit, l'armée bombarde régulièrement la zone. Depuis 2012, un groupe de terroristes circule entre ces montagnes qui entourent Kasserine, entre autres la Katiba Ogba Ibn Nafa, un groupe affilié à Al-Qaïda au Maghreb islamique. Cette cellule serait responsable de la mort de plus de 90 agents des forces de l'ordre. Chahambi est donc le théâtre régulier d'attaques terroristes, ce qui alimente l'imaginaire et les peurs des enfants des villages alentours.
On entend souvent les bombardements et les tirs. On a peur des tirs la nuit. Au moment où on va se coucher, les tirs commencent et ça nous empêche de dormir. Quand on sera grand, on veut intégrer la garde nationale ou l'armée. parce qu'ils nous protègent tout le temps. Comme toutes les mamans, quand on entend les tirs et les histoires des terroristes, on essaye de cacher la vérité aux petits. Moi, j'habite pas loin d'un endroit où ils ont égorgé des policiers. Ce jour-là, mon fils en a entendu parler. Et quand je l'emmène à l'école, à mi-chemin, il me demande d'en rentrer à la maison. Parce qu'il imagine des trucs qui font peur. Et il me dit qu'il imagine les policiers égorgés. On n'a pas pu l'emmener voir un psy, c'est très cher. On n'a pas les moyens, notre situation ici est misérable. Que Dieu nous aide et sauve la Tunisie. Dites vive la Tunisie.
Le gouvernorat de Kasserine compte environ 500 000 habitants et seulement deux psychiatres. L'un de libre pratique, l'autre qui assure une consultation à l'hôpital régional. Les soldats blessés lors des embuscades sont d'abord pris en charge dans cet hôpital de Kasserine. Des attaques parfois très violentes qui marquent psychologiquement le personnel soignant. Hinda Kari est surveillante. Elle se souvient de l'été 2013. En plein ramadan, 8 soldats avaient été retrouvés égorgés.
Cette nuit, j'étais de garde et nous avons reçu l'appel vers l'ouverture de Jean. Nous avons reçu 7 qui sont égorgés. C'était le choc pour nous. Nous n'avons rien fait. Nous n'avons aucun soutien psychologique ou suivi psychologique. La psychologie est un peu délaissée ici, surtout dans les zones d'intérieur. On ne s'intéresse pas à la psychologie de l'être.
Ni débriefing, ni soutien psychologique, le personnel soignant est pourtant régulièrement exposé à l'horreur. Le docteur Chedli Maksoudi est le chef des urgences de l'hôpital de Kasserine.
Ils ont tous besoin de psychologues et psychiatres. Et moi j'ai vu des gens, on est en train de soigner des blessés et tout, avec des gens amputés et tout, et j'ai vu des infirmiers qui sont en train de travailler et pleurer. Ils n'ont pas eu même un petit remerciement. Ça, c'est pas bien. On ne donne pas de valeur au côté psychologique. C'est la dernière peut-être souci pour l'État, la dernière souci pour... Si moi, je suis maintenant dans un plateau à la télévision, je dis pourquoi il n'y a pas de psychiatre à Kasserine, ils vont me dire, ben vous êtes fous. Nous, on parle maintenant de l'eau potable. C'est quoi un psychiatre, c'est quoi? Donc... Un psychiatre ou un psychologue, c'est du luxe, vraiment, c'est l'extrême luxe. Peut-être vous êtes la première que vous avez posé cette question-là. Ça ne se pose pas.
Nourdine Rabi, lui, a son cabinet en centre-ville de Kasserine. Dépression, anxiété, voire état de stress post-traumatique, ce neuropsychiatre se dit parfois démuni face à la demande en hausse.
Ça paraît un peu paradoxal, parce que les régions comme Kasserine, comme Sidi Bouzid, comme le Kef, qui n'est pas très loin aussi, chaque jour, il y a des poursuites, l'armée et la police d'un côté, les terroristes d'un autre côté. Ça, c'est le pain quotidien. C'est comme si nous sommes devenus un peu habitués ici à ce qui se passe, comme si les autorités ne s'intéressent pas beaucoup. Quand il y a un grand coup dans une grande ville telle que Sousse, toutes les équipes viennent, et alors qu'ici, il n'y a pas grand-chose à faire. On ne voit pas ça.
Bonjour.
Bonjour. Ça va?
La mère, c'est la mère du dernier, la personne qui a été fusillée devant sa mère, à Kasserine.
La mère, je vais aller dans l'Olympe.
Retour à Tunis, dans une institution qui ouvre très rarement ses portes. Il s'agit de l'hôpital militaire. Là aussi, depuis la Révolution, la demande en psychiatrie a augmenté de 30 à 40%, estime le médecin colonel-major Abdelaziz Oumaya.
Au début, je pense qu'on manquait un peu de moyens humains. On n'avait pas assez de personnel psychologique et psychiatrique pour faire face à ça. Donc, au début, on était... Deux psychiatres pour l'armée tunisienne.
Deux psychiatres pour 50 000 hommes.
On arrivait à faire le boulot correctement parce que c'était un temps de paix où notre travail était un travail routinier plutôt.
Désormais, le service compte une dizaine de médecins. L'institution militaire planche donc sérieusement sur cette médecine de catastrophe.
On commence à enseigner aussi ce genre de troubles aux écoles supérieures de l'armée. Pour que les futurs commandants de brigade ou d'unité sachent aussi à peu près de quoi il s'agit, puisque l'état de stress post-traumatique est une réelle pathologie, nous avons quelques-uns, c'est presque la seule pathologie imputable à l'armée. Donc on leur explique ce genre de souffrance. On leur expose des films aussi pour qu'ils écoutent des soldats parler de leurs peurs, de leurs angoisses. Maintenant, quelques-uns parlent même de résistance au sommeil, non de troubles d'insomnie. Les gens ne veulent pas dormir pour ne pas revoir ce cauchemar. Et donc le lendemain, ils ont les yeux rouges, ils ont le visage bouffi, alors qu'ils sont morts de sommeil.
Guérir les blessures invisibles, c'est donc l'enjeu de ces différents programmes de santé mentale élaborés pour les civils et les militaires. Reste à savoir comment assurer une prise en charge plus juste, plus équitable, mais surtout comment décider qui est victime du terrorisme et qui ne l'est pas. Officiellement, la Tunisie se pose ces questions. Elle a même adopté la loi organique numéro 26 du 7 août 2015. Cette loi a créé une commission nationale de lutte contre le terrorisme, chargée notamment d'aider et d'assister les victimes. Mais 2 ans après, difficile de mesurer le travail effectué des pleurs. Rida Radaoui, il est avocat, membre du centre de recherche sur le terrorisme lié à la FTDES, la Fédération Tunisienne des Droits Économiques et Sociaux.
Le problème, c'est que les victimes directes, les martyrs et les blessés des opérations terroristes en Tunisie ne savent pas que cette commission existe et ne savent pas qu'ils peuvent aborder cette commission et demander leurs droits. C'est à la commission elle-même de se faire connaître, c'est à la commission elle-même d'être visible pour qu'elle puisse exister et avoir un rôle direct dans la résistance contre ce phénomène du terrorisme. Donc, c'est pas juste un problème des victimes qui ne savent pas, c'est aussi cette commission qui a été créée. C'est un nouveau-né et il doit être visible et public pour tout le monde.
Pour cet avocat, leur reconnaître un statut de victime, c'est déjà un premier pas, mais reste encore à les indemniser. L'article 82 de cette nouvelle loi prévoit des réparations, mais il manque un décret qui en fixe les conditions.
Pour moi, c'est une politique juridique. C'est une politique que l'État ne veut pas indemniser ces gens-là. C'est une politique publique. L'État ne veut pas prendre ses responsabilités. Elle est en train de dire à ces victimes-là qu'elle veut vous indemniser un jour. Quelque part dans le temps, il y aura dans 10 ans, dans 20 ans. Donc, vous allez rester attendre jusqu'à ce que ce décret-là soit publié.
Plusieurs ONG critiquent la notion de victime définie dans cette loi, une définition qu'elles jugent trop restrictive, puisque seule la victime directe est concernée en oubliant la famille ou les témoins. Un sentiment d'être oublié partagé par de nombreux survivants, dont Abdelrahman, le guide du Bardo.
Déçu de la part du gouvernement tunisien, déçu. Qu'est-ce que ça va coûter pour le gouvernement tunisien aider une personne? Rien du tout. Mais pour eux, moi, je le comprends comme une chose, comme... c'est pas important pour eux.
En fait, ce que vous attendez, c'est une reconnaissance de victimes de terrorisme?
En fait, c'est la vérité. C'est pas ce que je cherche, c'est mon état. Mais il y a une chose très importante. Je suis fier, je suis content. Et si je dois le refaire, je le referai. Ça, je suis sûr et certain.
Après le terrorisme, penser les blessures invisibles. Un grand reportage de Gian Bergawi, réalisation Lorenzo Lacquisidani. متسلح بالافكار هاشم حلم واقع دامج لاجم للنشاز الجامح بأذان الجامع كبر طامي سلف جامي مرجلي اخواني وجداني للنظام تبوير زوايا امريكاني عنف سجاني فالولاء اني غير مصدر التسليح بتغير اسم الكتيبة عامير تاني من الافغاني كان يجي جمال الدين هلا قلبي جمجانين وهيروين فك الحنين من فك عقد الجنين بدك الف سنة لتفكر متفجرات جنين جهات الاول بمكة فلتنفس التحقيم متفضل الرياضة تصدر جهاديين بس مش على فلسطين اذا مش للبلدان اذا اسلامك لمين اللاوعي معقلم استطياب علقم افلم اسلم واكتشف صدام انه الله اكبر ابشر بشار صار بده يستغفر حاكم باخر فترة بيكون طالب السترة بتصير لحيته اطول من جبهة النصرة اللحية فكرته عصرة رح ينتهي بعصرة مثل ما بلش بأسرة الاسلام وهي مثل الجمل والجمال الاول جزء من الطبيعة الثاني تاجر بده يشتري ويبيعك محصول ربيعك حبوا ضد تجارتهم وبئس ما قدم